Amen.
Amen.
Bonjour à ceux que j'ai pas eu le temps de saluer tout à l'heure. Je vais continuer sur la notion de la consommation ou consécration. La semaine dernière, nous étions sur le thème du service. Ceux qui n'avaient pas pu être là, je vous encourage vivement à réécouter la prédication sur le site, car il y a eu des choses importantes qui ont été dites sur la notion de la négligence. Non pas pour dire que c'est pas bien, on sait que c'est pas bien, mais il est important de retenir, et on a vu quelques exemples dans la Bible avec les conséquences malheureuses liées à la négligence. Et nous avons vu également toute la richesse qu'il y a, les bénédictions qu'il y a à servir le Seigneur avec respect, avec honneur. C'est le sens de la crainte. Et nous avions vu également d'autres passages sur la notion du service et de la bénédiction qu'il y a à servir le Seigneur. Et puis nous avions pris le temps effectivement de faire un parallèle avec les offrandes, parce que nous avons vu que c'est exactement le même principe. Que notre service soit actif, qu'il soit au travers des offrandes, on a vu qu'il y a le même procédé, celui de la négligence qui apporte des conséquences malheureuses dans une vie, mais l'appel de Dieu à nous ressaisir et la bénédiction qui en découle. Mais toutes ces choses-là sont détaillées sur le site que vous pourrez écouter. Aujourd'hui, nous on voit un autre thème qui est celui du prochain. Le prochain, je vous invite à faire une première lecture dans Proverbes, chapitre 14, verset 21. Alors ce matin, nous allons faire plusieurs lectures. Non seulement parce que les lectures en tant que telles sont suffisamment explicites, je ne ferai pas de longs commentaires sur ce qui est dit, mais elles mettent aussi en évidence l'enseignement par rapport à notre prochain. Et je parle bien, on garde notre regard. C'est le rapport de notre consécration qui s'évalue par rapport à notre prochain. Il n'est pas question de dire il faut faire ça ou ça, mais notre relation au prochain est un signe de l'état de notre cœur. Le Proverbe 14, verset 21 dit « Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux celui qui a pitié des misérables. » C'est pour ça que j'ai voulu prendre ce verset en introduction générale, parce qu'il y a déjà dans ce verset-là tout le contenu de ce que nous allons voir ce matin. Celui qui méprise son prochain. Alors je sais qu'ici, personne n'a jamais méprisé qui que ce soit, mais essayez d'imaginer un seul instant ce que cela peut représenter en parole, en action, ou en regard, en attitude. Et Dieu dit que quiconque méprise son prochain commet un péché. Mais il y a une grâce, il y a une bénédiction, il y a un bonheur pour celui qui a pitié, celui qui a du cœur pour celui qui souffre. Ma considération du prochain fait partie de mon état de cœur. De la manière dont je vais considérer mon prochain, c'est ainsi que je vais pouvoir évaluer ma consécration vis-à-vis de Dieu. La semaine dernière, nous avons vu que servir, c'est servir l'Éternel. C'est lui qu'on sert. Ce que l'on fait, on le fait parce qu'au-delà de la relation humaine, au-delà de la gestion matérielle, au-delà de la considération, charnelle du service, parce qu'on travaille, on fait des choses. Le service, c'est pour le Seigneur. Servez l'Éternel, c'est lui que nous servons. Mais il ne faut pas oublier que servir son prochain, c'est servir Dieu. Servir Dieu, c'est servir les autres. Et quiconque n'a pas cette considération-là, et quiconque a cette logique supraspirituelle, dire « Ah mais je fais ça pour le Seigneur !» Sous-entendu, je fais abstraction de toute considération de mon prochain, que ça lui plaise ou que ça ne lui plaise pas, c'est un peu le résumé de la pensée, se trompe. Parce qu'en servant mon prochain, c'est Dieu que je sers. Et quand je sers Dieu, je le fais au travers de mon prochain. Si vous prenez des exemples comme Moïse, Paul, David et même Jésus. Est-ce que c'était des gens qui servaient Dieu ou qui servaient les hommes? Ils servaient Dieu. Indéniablement, ce sont des hommes inspirés, sensibles, ils cherchaient la face de Dieu. C'était des hommes qui servaient Dieu parce qu'ils se laissaient influencer par eux. Enfin, par lui, pardonnez-moi. Mais Moïse, Paul, David, Jésus, on les voit sans cesse au service des autres. Il n'y a pas d'opposition. J'ai plutôt envie de vous dire que l'un découle de l'autre. Moïse, une charge de plusieurs millions de personnes sur ses épaules. Il est dit de lui que c'était l'homme le plus patient de la terre, et on peut comprendre parce que quand on lit ce qu'il... Il aurait très bien pu dire, mais attendez, vous voyez la relation que j'ai avec Jésus, moi, avec Dieu. Mon visage est transformé, j'ai pas à m'occuper de vos affaires. Faux. Il est porté dans son cœur. Et on pourrait ainsi développer pour David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il était là sur les champs de bataille, auprès des pauvres, cherchant à aider son peuple. David, Paul, pareil. Un apôtre qui était jour et nuit au travail, disait-il. Mais au travail vis-à-vis des autres. Je n'ai de cesse de vous exhorter, de vous encourager. Et Jésus, qui allait de lieu en lieu, il allait au-devant des âmes, Jésus. Ce n'était pas des mystiques, il dit, oh, moi je suis très spirituel, je prie, loin de moi vos considérations humaines. Au contraire. Et ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre, que la notion de consécration vis-à-vis de notre prochain est une attitude spirituelle. Quiconque prend de la distance avec le service n'est pas spirituel, ne fait pas une démarche spirituelle. Nous pourrions même tout simplement dire que si nous demandons, comme nous l'avons dit, sur l'esprit de Dieu, mais je suis comme David, servons aussi comme David.
Oui. Amen.
Quand nous disons Seigneur, donne-moi de ton esprit, alors servons comme Jésus a servi les autres. En fait, si nous sommes véritablement animés et si nous nous laissons animer par l'Esprit de Dieu, nous serons amenés à servir les autres. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse à servir. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous pousser à avoir de la considération pour notre prochain. Alors, on va voir deux mentalités, une mauvaise, une bonne. Et puis, on voit après trois domaines d'application. Alors, pour voir le premier exemple, je vous invite à faire la lecture en Luc, chapitre 18. Vous allez voir que la plupart des lectures que nous allons faire sont des lectures connues. Luc, chapitre 18, à partir du verset 11. Verset 9, mille excuses. Jésus dit encore cette parabole. Alors pas, il vise qui il veut, à qui il veut parler, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. Moi je suis déjà un gars consacré, j'ai plus rien à entendre. Moi je sers le Seigneur, moi je suis bien, moi je suis un bon gars, moi je suis déjà je suis déjà quelqu'un de d'honorable, je plais à Dieu, donc qu'est-ce que tu vas bien pouvoir encore me dire? Alors Jésus dit cela. Il dit cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant d'être justes et ne faisant aucun cas des autres. On retrouve déjà la notion du mépris, hein. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était chrétien évangélique et l'autre un espèce de mondain. Alors le chrétien évangélique, debout, priait ainsi en lui-même. Il garde bien dans son cœur quand même, hein. Oh Dieu, ah, je te rends grâce. Est-ce que je ne suis pas comme le reste des hommes? Mais oui, regarde, ils sont ravisseurs ces gens-là, injustes, adultères, ou même comme ce publicain là, ce gars là à côté de moi là, Moi, je jeûne deux fois la semaine. Je donne ma dîme de tous mes revenus. Le mondain, l'homme de ce monde, se tenait à distance. N'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Amen. Le mauvais exemple. Un bon gars, hein ? Je vais au temple, je prie, j'ai tout pour apparaître bien. Et voici quelques caractéristiques. Et ça, c'est le premier, il est terrible, l'égocentrisme. Et moi, et moi, et moi. Et moi. Ah, et moi ! Et moi, et moi, et moi. Vous pouvez les mettre sur toutes les sauces, à tous les tons. Il ramène tout à lui-même. Ses ressentis, sa manière de se regarder, ses émotions. Tout ne converge que sur lui. Ce qui l'importe, c'est lui. Qu'importe si c'est bien ou c'est pas bien. Ce qui est essentiel, c'est son ressenti à lui. Ses émotions à lui. Son regard à lui. Son opinion à lui. Son regard. Il prie, mais il a un petit œil à gauche, à droite quand même. Hein. Comment regardons-nous les autres? Comment les regardons-nous? Notre manière de regarder les autres est très importante. Le regard est le reflet de l'âme, dit-on, non? Et derrière un regard, il y a un état de cœur. Par nos regards, on déclenche un petit processus qui s'appelle le cerveau. Et là, il y a des pensées qui passent. Ne serait-ce que sur un regard, ne serait-ce que sur une émotion. Et ce qui est caractéristique de ce genre d'attitude, c'est la distance que les gens mettent. Oh, pas avec tout le monde, hein. Non. Mais avec ceux qui les intéressent. Mettre une distance avec, vis-à-vis de ceux qui les intéressent, de les garder à distance. Ça aussi, ça peut être des attitudes, vous savez. C'est pas forcément repousser les gens, mais le faux consacré à cette attitude, à ne fixer sa vie que sur lui-même, sur ses pensées, sur son regard, sur sa manière de percevoir les choses, sur sa manière de penser. Il ne fonctionne jamais en considérant les autres, mais il ne fonctionne que par rapport à ce qu'il ressent, à ce qu'il voit. À ce qu'il pense. Et par ses attitudes, il va mettre de la distance. Quelle pensée? Et là, je pose une question, je vous demande de vous répondre à vous-même. Mais quelles sont les pensées qui nous viennent à l'esprit quand on voit différentes personnes dans la rue? Quel regard est-ce que nous avons sur certaines personnes? Et même sur les gens du monde, sur ces voleurs, ces buveurs, ces drogués, ces religieux, et on peut étaler la liste. Quel regard est-ce qu'on a sur ces gens-là? Quel sentiment développons-nous à l'égard de tous ces gens-là? Qu'est-ce que vous diriez si quelqu'un se disant chrétien? C'est l'exemple, hein. Qu'est-ce que vous pensez d'un chrétien qui se, enfin, quelqu'un qui se dirait chrétien et qui mettrait de la distance à l'égard de quelqu'un juste à cause de sa couleur de peau ou de son origine? Que diriez-vous de celui qui se dirait chrétien, mais qui aurait des attitudes méprisantes ou des paroles méprisantes? Bon, pas seulement à l'église, mais dans les conversations. J'entendais récemment quelqu'un qui se disait chrétien, qui parle du Seigneur tout autour de lui. Puis dans la conversation, il dit « Oh, moi, ces gens-là, je les aime pas. » Que penseriez-vous d'un, d'un chrétien qui serait capable, volontairement, d'ignorer du regard quelqu'un, de connu ou d'inconnu. Je pense qu'une fois au moins dans notre vie, nous sommes tous allés dans les grandes villes et vu des gens qui mendiaient. Quelle est notre attitude? Quel est notre regard? Cet homme est un faux consacré. La seule chose qu'il importe, c'est lui-même. Et surtout, c'est un faux consacré parce qu'il ne comprend pas les choses telles que Dieu le déclare depuis le commencement de la parole. Il y a une chose qu'il faut que nous comprenions, mes bien-aimés. C'est que l'homme est la chose la plus précieuse de Dieu. L'homme est la chose la plus aimée de Dieu. La galaxie, c'est beau. La création, c'est magnifique. Regardez l'univers comme c'est. Comme c'est. Vous prenez une carte et essayez de mettre la Terre par rapport à tout l'univers. Ça nous dépasse, ça dépasse notre intelligence. Et Dieu a créé tout ça et il dit cela était bon. Mais quand au sixième jour, il crée l'homme, il va dire cela est très bon. Toute l'histoire, avec un grand H, intégrant Dieu, n'a de sens que à cause de l'homme. Dieu a tout fait pour l'homme. Tout. Toute la création n'a pas été faite pour décorer un univers vide. Il l'a faite pour nous. Nous sommes comme des perles mises dans un écrin. Et le plus important, ce n'est pas l'écrin, c'est la perle. Nous sommes les gens les plus aimés de Dieu. La personne que vous avez à côté de vous, ce n'est pas n'importe qui, c'est la personne la plus aimée de Dieu. La plus aimée. Amen. À cause de la personne qui est à côté de vous, vous savez qu'il y a le roi des rois qui est mort pour elle. Amen. Tous. Et c'est ça qu'il faut que nous comprenions. Considérez les gens comme Dieu les considère. Et ça, ça change tout. Nous pouvons considérer les gens par rapport à nos émotions, à nos pensées, à nos regards, mais nous serons à côté de la plaque. Nous ne serons pas des consacrés. Nous serons des consommateurs, nous serons des intellectuels, nous serons des pharisiens, nous serons des religieux, mais nous ne serons pas consacrés de cœur. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions et que nous apprenions à regarder les autres comme Dieu les voit. Et ça, ça change tout. Parce que pour Dieu, il n'y a ni homme, ni femme, ni riche, ni pauvre, ni noir, ni blanc. Il n'y a, j'ai même envie de dire, ni pécheur, ni saint. Il y a des hommes qui ont besoin d'être sauvés, amen, qui ont besoin d'être secourus. Il y a des hommes et des femmes qui sont là avec leurs problématiques et que Dieu veut bénir. Amen. Ayons et apprenons. Ne soyons pas comme ce pharisien qui va se targuer de ce que lui est. Si Jésus avait regardé à ce que lui était, il ne serait jamais descendu sur la croix. Pour quel intérêt? Mais moi je suis parfait, moi je suis sans péché, je ne vois pas pourquoi j'irais mourir à la croix pour ces gens-là. Même les gens qu'il a choisis, les disciples, c'était des... Mais donc même si c'était pour les douze, là, il n'y a pas de justification. Mais Christ est mort par amour. Dieu prouve son amour envers nous en ce qu'il a donné son Fils. C'est le regard de Dieu sur l'homme qui fait qu'il a donné son Fils. Si nous ne regardons pas les gens tels que Dieu les voit, alors il nous est très difficile d'accomplir la parole de Dieu. Parce que tout dépend de ça. Aimer nos ennemis. Mais qui va aimer son ennemi? Avec tout ce qu'il m'a fait, jamais je lui pardonnerai. Mais si on le regarde avec le regard de Dieu, et le regard de Dieu, c'est qu'il veut qu'il se repente. Le regard de Dieu, c'est qu'il veut qu'il soit délivré de sa misère. Le regard de Dieu, c'est un regard de compassion, de celui qui est prêt à pardonner. Vous savez que Dieu est prêt à pardonner vos ennemis?
Oui.
J'ai peut-être pas bien entendu la réponse. Est-ce que vous êtes bien certain que Dieu est prêt à vouloir pardonner vos ennemis?
Oui.
Est-ce que nous avons le même regard? Et c'est ça qui change tout. Si nous avons un regard égocentrique, nous n'allons aimer que ceux qui nous aiment. Et c'est normal, c'est humain. Nous allons mettre de la distance dès que quelqu'un va nous paraître un peu, nous empiéter dessus, ou dès que nous serons déstabilisés. Mais si nous apprenons, Seigneur, fais-moi grâce, permets-moi d'apprendre à regarder les autres tels que toi, tu les vois, alors ça change tout. Parce que Dieu ne voit pas des malades, Dieu ne voit pas des riches ou des pauvres, ou des cultivés ou des incultes. Mais il voit des hommes et des femmes qui ont besoin d'être sauvés. Des hommes et des femmes qui sont peut-être enténébrés et qui, à cause de leur souffrance, réagissent mal, ça c'est vrai. Mais Dieu a un regard de compassion, de miséricorde, de salut, de délivrance. Voyons maintenant un bon exemple. En Luc chapitre 10, verset 25, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, c'est-à-dire pour le déstabiliser, hein. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? La question est importante quand même, c'est une question de vie éternelle, hein.
Oui.
Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Ah, tu as très bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. D'ailleurs, la première question, c'est de se dire, est-ce qu'on est d'accord déjà sur ce commandement-là? Mais lui, voulant se justifier, vous avez vu, ceux qui cherchent toujours à justifier, ils ont toujours un petit mot à dire en plus, hein. Et qui est mon prochain? Bah oui, tu me dis d'aimer mon prochain. Donc, qui est-ce que je dois aimer? Et comprenez que derrière la question de cet homme, c'est qui dois-je aimer? C'est déjà une drôle de question, non, vous trouvez pas? Déjà, posez la question, mais c'est qui que je dois aimer? Sous-entendu, alors il y a ceux que je vais aimer et ceux que je vais pas aimer. Parce que c'est ça le fond de sa pensée. Alors Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, un religieux, hein, qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, un autre religieux, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, qui voyageait, étant venu là, qu'est-ce que vous avez comme mot là?
Ému de compassion.
Et de pitié.
Fut ému et pitié. On sent que c'est ses tripes, hein, qui sont touchées là. C'est pas seulement son regard. C'est son regard qui va toucher son cœur. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Ayez soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Question de Jésus. Lequel de ces trois semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Le bon exemple, c'est celui qui a la compassion, celui qui a du cœur, celui qui, quand il va voir quelqu'un en souffrance, ce n'est pas son intellect qui va commencer à penser, ce n'est pas ses pensées qui vont commencer à agir, mais c'est son cœur. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, les hommes seront de plus en plus insensibles. Et nous sommes dans ce monde, mes bien-aimés. Mais notre combat est également de ne point aller dans le sens de ce monde. Il est tellement facile de devenir de plus en plus insensible. Je me mets le premier sur cette liste, hein, mes bien-aimés. Mais ne nous laissons pas polluer par la mentalité du monde ou que le monde voudrait influencer de plus en plus dans l'esprit, dans le cœur, dans les manières de parler, d'agir. Quand notre cœur n'est plus ému de compassion, il y a un grave problème, mes bien-aimés. C'est que nous ne sommes plus dans la notion de la consécration, parce que la consécration touche le cœur. La consécration qui ne touche pas le cœur, ce n'est pas de la consécration, c'est de la religiosité. C'est de la bonne conscience morale. Mais ce n'est pas de la consécration telle que Jésus l'avait, telle que David l'avait, telle que Moïse l'avait. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de cœur. Pas seulement de manière poétique, mais nous devrions éprouver de l'émotion. La consécration, bien sûr, ça va lui prendre du temps. Il était sur le chemin, c'était pour continuer, c'était pas pour aller dormir à l'hôtel. Mais malgré tout, il a pris du temps, il s'est arrêté sur cet homme, il a pris sur lui, il a fait de l'énergie, il a porté, il a mis sur son âne, il a certainement fait un détour, il est resté à l'hôtel avec lui, il a même dû payer pour lui. Bien sûr que la consécration vis-à-vis de notre prochain, ça va nous coûter tout ça. Ça va nous prendre du temps, j'ai pas le temps. Ça va nous demander de l'énergie, oui mais je suis déjà tellement fatigué. Ah oui, mais ça va nous demander un peu de l'argent. Oh, bien sûr que la vraie consécration, l'autre rapport vis-à-vis des autres, ça va nous coûter tout ça. C'est vrai. Alors, selon nos capacités, hein, ce n'est pas des obligations, mais c'est le reflet de la vraie consécration. Vous avez remarqué la question de cet homme qui et mon prochain. Sa question à lui, c'était « Qui dois-je aimer ? » ?»« Qui dois-je aimer ?» Alors la question déjà est assez surprenante. Mais vous avez vu la réponse de Jésus ? Il ne répond pas « Voici celui que tu dois aimer. » Nous avons que le problème avec le mauvais exemple, c'est l'égocentrisme. C'est que son point de repère, c'est lui. Son point de référence, c'est je. Son repère, son cadre, c'est moi. La réponse de Jésus, versets 36 et 37, dit, je le paraphrase, qui est mon prochain? Et la réponse de Jésus, c'est vis-à-vis de la victime, qui est son prochain? Lui pensait la question par rapport à lui-même. C'est qui mon prochain par rapport à moi? Et Jésus dit, mais par rapport à l'autre, qui est le prochain? Arrête de te prendre comme référence. Arrête de te prendre comme point d'appui. Mais la vraie question, c'est savoir, vis-à-vis de la victime, qui est le prochain? Vis-à-vis de celui qui souffre, qui va être son prochain? Vis-à-vis du malheureux, qui va être son prochain? Toi, fais de même. Parce que cet homme, il a tout de suite répondu, bah oui, le prochain de celui qui souffre, c'est celui qui va l'aider. Le prochain de celui qui est là dans les pleurs, c'est celui qui va le consoler. Le prochain de celui qui a faim, c'est celui qui va lui donner un minimum. T'as bien compris ça? Bah oui. Alors toi, fais de même. Ne te prends pas comme référence. Mais toi, deviens le prochain. Toi, deviens aimable. Toi, deviens celui qui aime. Toi, deviens un sujet de consolation. Toi, deviens un sujet d'aide. Toi, deviens un sujet de celui qui va te porter, aller vers celui qui souffre. Toi, deviens le prochain. Tant que nous avons comme point de référence nous-mêmes, nous manquons le but, mes bien-aimés. Nous ne pouvons pas accomplir la parole de Dieu. Parce que nous ne sommes point de les référents. Le point de référence, c'est Jésus. C'est le cœur de Jésus, c'est la mentalité de Jésus. Et vous ne voyez jamais Jésus se prendre en considération terrestre. Tant que notre amour est partial, nous n'aimons pas comme il faut. Est-ce que Jésus a eu un amour particulier pour les uns ou pour les autres? Pas du tout. Il a donné sa vie pour qui?
Pour tous.
Nous aimons nous dire « Seigneur, tu m'aimes ». Mais il aime tous les hommes. Tous les hommes. Lisons encore un autre texte. Ouais, tu pouvais mettre la... Pardon. La leçon qu'on peut retenir de ces allégeances, c'est que c'est agir en leur faveur comme Dieu voudrait qu'on agisse en leur faveur. Le Samaritain, c'est l'exemple de celui qui agit en faveur de son prochain, tel que Dieu veut aussi que nous agissions en leur faveur. Le bon exemple, c'est celui qui agit non pas par rapport à ce qu'il a envie, mais en rapport à celui qui souffre. C'est eux notre point de repère. Lisons encore Matthieu au chapitre 25, un texte qui va encore nous surprendre par sa modernité. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » On est toujours dans la notion du salut. Hein. C'est une image pour parler de la vie éternelle. Verset 35. Car, c'est la raison pour laquelle il mérite de rentrer. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Et j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les juges lui répondirent, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Quand je parlais d'actualité. Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Et le roi répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Oh, mais pourquoi ? Parce que j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, mais quand avons-nous vu avoir ayant faim, ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne l'avons-nous pas assisté? Sous-entendu, nous l'aurions fait si nous t'avions vu, toi. Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Personnellement, je me sens concerné par le texte. Hein. Je ne vais pas porter un jugement sur vous, mais le texte est fort. Le texte est fort. Il nous parle de deux groupes. Leur seul point commun, c'est que tous les deux sont surpris. Les deux sont surpris. Les premiers sont surpris d'être récompensés. Mais pourquoi tu nous récompenses? Pourquoi cela? Qu'est-ce qu'on a fait de particulier? Quand est-ce qu'on t'a vu? Parce que ces gens avaient la vraie consécration de cœur. Ils ont été surpris Parce qu'ils ne savaient pas qu'en aidant le plus petit des frères et de leurs sœurs, c'était Jésus lui-même qu'il faisait. Parce qu'il ne le faisait pas avec calcul. Il ne le faisait pas avec mesquinerie. Il ne le faisait pas avec une sorte de donnant-donnant. Il le faisait tellement de bon cœur que le seul fait de le faire, c'était pour eux un geste naturel. C'était normal pour eux. Il n'y avait pas de récompense à avoir. Ils agissaient avec leur cœur. Et vous savez que quand on fait les choses avec cœur, quelque part, le fait de le faire, c'est déjà un plaisir, quoi. Quand on rend service de bon cœur, quand quelqu'un veut nous donner la pièce ou nous remercier, on dit non, mais ça va, on s'attend pas à ça, parce qu'on le fait de bon cœur. Et les autres aussi sont surpris. Je sais, mais pourquoi ils sont surpris, eux aussi? Peut-être que, en recoupant avec une autre parabole, ceux qui sont aussi invités aux noces, ils ont toujours des excuses. Ah oui, mais tu sais, j'ai acheté un champ, il faut que j'aille le visiter. Ah oui, mais attends, je suis sur un trafic là, il faut que je change de voiture, il faut que je change mes bœufs. Ah moi, attends, c'est le mariage de ma fille. Alors, tu m'excuseras. Ah mais moi, je suis en train de préparer mes vacances. J'aimerais bien, mais tu sais, la location, tu comprends. Et moi j'ai ceci, et moi j'ai cela. J'ai pas le temps de venir te voir, mais je te promets, dès que j'ai un moment, je le fais. Mais pourquoi? Parce que vous êtes trop préoccupés. Jésus ne leur fait pas de reproches. Enfin, il ne leur dit pas, mais laisse tes champs, laisse tes bœufs, laisse ta voiture, laisse... Pas ta fille. Mais comprenons que, à force d'être toujours préoccupé par notre vie, par nos considérations, par nos intérêts, effectivement, on n'a plus de regard de compassion sur les autres. Et c'est normal. On ne peut pas être préoccupé à la fois par les autres et à la fois par notre propre vie. Ou, plutôt, plus justement, dirais-je que, en se préoccupant trop de notre petite vie, eh ben, le besoin des autres est occulté. On ne se priorise que pour notre petite vie, nos préoccupations, notre regard, nos pensées. Et insidieusement, il y a de la distance qui se fait. Là même où normalement le Seigneur nous a placés dans ce monde pour être un sujet de bénédiction. Et nous péchons, nous manquons le but. Nous sommes tellement préoccupés par notre vie ici-bas. Alors, voyons trois domaines où le Seigneur nous demande de considérer les autres comme Dieu les considère. Et trois domaines où le Seigneur nous demande d'agir en leur faveur, comme Dieu voudrait agir en leur faveur. Parce que c'est la place de chrétien. Nous savons que nous sommes sur terre pour refléter la grâce de Dieu. C'est notre rôle. Sinon nous serions au ciel et tout serait très bien. Mais nous sommes sur terre pour refléter la grâce de Dieu, pour être comme Jésus. Le premier lieu où le Seigneur nous appelle à vivre ces choses-là, c'est évidemment dans l'Église. 1 Jean 80 dit, si quelqu'un dit « J'aime Dieu !» mais qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit. On retrouve, hein? Le regard. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est un commandement, c'est une obligation. Oui, mais comment je dois l'aimer? De tout ton cœur. C'est un commandement. Le premier endroit où nous sommes appelés à considérer les autres comme Dieu les voit, c'est nos frères et sœurs. Et j'ai même envie de dire, si avec les frères et sœurs, on n'arrive pas à avoir ce regard-là, comment faire pour plus? Ceux qui ont été rachetés, ceux avec qui on partage une foi, ceux avec qui il y a cette liberté de parole, de cœur, d'émotion. Alors bien sûr, on n'est pas parfait dans l'Église. Et personne n'a dit que l'Église est parfaite. Pour la simple et bonne raison que c'est que j'y suis. Donc, mais chacun peut se le dire. Hein. Le jour où vous croyez qu'une Église est parfaite, faites attention, n'y allez pas. Mais oui, Parce que c'est à partir de là qu'il y aura les problèmes, je vous promets, enfin vous le verrez par vous-même. Mais l'Église n'est pas parfaite, et ça c'est pas un problème. Parce que le Seigneur nous demande de nous aimer, et quand le nous demande de nous aimer, il n'y a rien de sentimental dans cet amour-là. Prenez le temps à la maison de relire 1 Corinthiens chapitre 13. Moi je vais juste vous le relire, les versets 4 à 7. L'amour est patiente. Ah bah voilà, si ne serait-ce que la patience nous l'usions entre nous, elle est pleine de bonté. Elle n'est pas envieuse, pas de jalousie. Elle ne se vante pas. Ah oui, moi je fais ça, mais... Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Moi je suis mieux. Elle ne fait rien de malhonnête, même si c'est pas dit, hein, de temps en temps c'est dans le cœur. Hein. Elle ne cherche pas son intérêt. Oh bah oui, pas d'égocentrisme, c'est pas moi qui importe, c'est mon prochain. C'est ça l'amour. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne pas le mal. Ah oui, je suis sûr que lui là, le jour où il m'a dit ça, c'est que... Oh, la sœur là, elle est passée là. Elle m'a même pas dit bonjour. Je suis sûr que... Oh, 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 stop. Ne soupçonne pas le mal. Elle ne se réjouit point de la justice. Elle se réjouit de la vérité. Et dites-moi, elle excuse tout. Dites-moi, vous excusez quand il n'y a pas de problème ou quand il y a des problèmes? Il s'excuse, s'accomplissent quand justement il y a un souci. Et c'est ça l'amour, j'excuse. Je crois tout, elle espère tout, elle supporte tout. Ne soyons pas des naïfs, des bisounours. Nous sommes tous des misérables. Amen.
Amen.
Tous. Il n'y en a pas un qui soit meilleur que l'autre. Et nous vivons ensemble. Mais c'est dans l'Église. Parce que justement, nous avons le même enseignement, le même amour, la même consalité, le même objectif de vie, que nous devrions vivre ces choses en toute simplicité. Ce n'est pas notre relation entre nous, n'est pas basée sur le sentimentalisme, mais sur un exercice de prendre sur soi, de se détourner de nous-mêmes pour focaliser notre attention sur notre prochain. Et vraiment, alors là, c'est peut-être un individu tout personnel, mais je ne trouve pas de plus bel amour sur cette terre que dans l'Église. Il n'y a pas cet amour qu'on peut vivre dans le monde, c'est impossible. Et honnêtement, quand dans l'Église, il y a des problèmes de relation, je me dis qu'il y a un gros problème, encore plus que ça. Parce que si dans l'Église, on ne peut pas vivre cette relation, cet amour, cette simplicité de cœur, ce partage sincère, cette vérité de relation, dans l'excuse, dans le pardon, dans l'écoute. Mais alors je vous souhaite bien du courage dans le monde, hein. Parce que si dans l'Église, vous n'êtes pas capable, nous ne sommes pas capables de vivre cet amour simple, alors je vous souhaite bon courage à la maison et dans le monde. La consécration, dans notre relation, ne se limite pas non seulement à l'Église. C'est vrai que dans la parabole que nous avons lue tout à l'heure de Matthieu 25, vous savez, quand il disait « Où est-ce qu'on t'a vu ? Avoir faim, avoir froid, avoir soif, être en prison. » Jésus précise bien à l'un de ses plus petits de mes frères. Et Jésus a dit ailleurs que son frère, sa mère, c'est ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Donc, honnêtement, je crois que cette parabole de Matthieu 25 veut vraiment replacer dans le contexte de l'époque où les chrétiens étaient persécutés et ce besoin d'assistance, d'accompagnement, ce qui n'est pas moindre aujourd'hui. Hein. Je ne suis pas en train de dire c'est un texte pour hier et plus pour aujourd'hui. Si. On doit toujours prendre soin de nos frères et de nos sœurs. C'est tout simplement la concrétisation de ce qu'on vient de dire juste avant. Prendre soin de vous. Mais ça ne se limite pas uniquement ou bien-aimé dans la foi. L'Évangile nous demande d'aider tous les hommes, et pas exclusivement nos frères et sœurs dans la foi. D'ailleurs, c'est en Galates, chapitre 6, verset 10, qu'il est écrit « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. » Donc, c'est vrai que notre priorité de temps, d'énergie, d'argent, doit aller premièrement en faveur de nos bien-aimés. Ben oui, parce que si c'est d'ailleurs le premier lieu où le Seigneur nous demande de manifester de l'amour, alors ça doit premièrement se déverser. Mon temps, je vais le consacrer à mon frère, à ma soeur, mon argent, mon énergie, premièrement. Mais je ne vais pas pour autant fermer les yeux sur celui que je pourrais aider, assister, inviter. Et là aussi, je ne veux pas seulement nous mettre des missions humanitaires sur nos épaules, mais quand on sait qu'un voisin est en difficulté, quand on sait que, voilà, il y a quelqu'un qui est en pleurs sur le trottoir, quand on est dans un magasin et que peut-être que notre cœur peut être touché parce qu'on peut sentir ou parce que le Seigneur va mettre sur notre cœur. Quelques mots sont capables de bouleverser des existences et pas forcément notre argent ou notre engagement pendant des heures dans des œuvres humanitaires. Ayons de la compassion. Jésus est mort pour tous les hommes, n'est-ce pas? Quand il a multiplié les pains, c'était pour des milliers d'hommes et de femmes. Quand Jésus guérissait, bien sûr, il disait « c'est par ta foi que tu es guéri », mais il n'attendait pas qu'il soit déjà des disciples. Jésus a manifesté de sa bonté à l'égard de tous. Le Proverbe 14, verset 31 dit « opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de ce pauvre, c'est honorer Dieu. » Et je me demande si l'Église n'aurait pas perdu sa vocation d'honorer Dieu en prenant soin des pauvres. C'est là que je disais tout à l'heure que servir les autres, c'est servir Dieu. Outrager le pauvre, opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est honorer Dieu. Toutes les fois que nous agissons de bon cœur à l'égard de quelqu'un, croyant ou incroyant, nous honorons celui que nous représentons. Nous honorons Dieu. Vous savez, là je vous laisse le... Je ne vais pas développer la chose, mais si nous prenons l'histoire avec un petit H, toutes les œuvres de bienfaisance, les hôpitaux, les orphelinats, les centres d'accueil pour handicapés, les progrès sociaux, la lutte contre l'esclavage, etc., etc., tout ça, ça a une origine chrétienne. Oui. Où en sommes-nous aujourd'hui de nos combats en faveur de ceux qui nous entourent, de ceux qui souffrent? Est-ce que nous n'aurions pas laissé du terrain avec une sorte, soi-disant, philosophie à la mode faut consacrer? Ah ouais, mais moi je prie! Ah oui, moi j'en ai dîme! Ah oui, mais moi, là, le monde, il a qu'à s'occuper! Eh oui, le monde va s'en occuper, et aujourd'hui, où est la manifestation de l'amour des chrétiens dans ce monde? Consécration. Et ce sera le troisième domaine dans lequel nous sommes appelés à agir, que j'aurais dû mettre peut-être en premier des trois, mais justement que je veux terminer par celui-ci pour montrer que c'est le plus important. Troisième domaine, c'est dans notre propre maison, dans notre foyer. Considérer les gens comme Dieu les considère. La Bible nous dit en 1 Timothée chapitre 5 verset 8, si quelqu'un n'a pas soin, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. La notion de consécration n'est pas une question de qualité, mais c'est vraiment une question de salut. Est-ce que je considère mon épouse comme Dieu la considère? Est-ce que je considère mon époux comme Dieu le considère? Vous avez vu comme avec les étrangers, on arrive à avoir beaucoup plus de patience, de soin que dans ceux de notre propre foyer. Mais c'est là que le Seigneur nous attend. Un vrai chrétien, ça se voit premièrement dans sa maison. Que notre conjoint soit converti ou inconverti, est-ce que je vois mon conjoint comme étant celui que Dieu voit? Est-ce que je lui apporte l'honneur que je dois lui apporter? Et je nous rappelle, nous les maris, il y a des maris ici? Je nous rappelle ce très beau verset que nous rappelons matin, midi et soir, où le Seigneur nous invite à être capable de nous sacrifier pour notre épouse comme Christ s'est sacrifié pour elle. Et ça, on n'aime pas ça, parce que ça, on n'aime pas. Mais c'est la hauteur de la consécration que nous devons avoir pour notre foyer, mes bien-aimés. Pas moins que ça. Pas moins que ça, mes bien-aimés. Et je pleure peut-être tous les jours quand j'entends ces témoignages de couple, de relations entre mari et femme. Et combien mes entrailles sont meurtries quand on voit le comportement des hommes que si nous confessons le nom de Jésus, ne nous annoncions pas à ces gens qui sont inconsidérés, mais que nous ayons cet honneur, premièrement, d'honorer notre épouse telle que le Seigneur nous demande de l'honorer. Ça va aussi pour les femmes, hein, mais là, c'est juste les hommes qui avaient leur part ce matin. À l'égard de nos enfants, est-ce que nous avons le même regard sur nos enfants que Dieu ? La Bible nous dit que c'est un don que Dieu nous fait, c'est pas notre propriété, c'est notre responsabilité. Dieu nous les confie pour les enseigner, pour les aimer, pour les entourer. C'est la fête des pères, hein, donc je continue. Mais Dieu nous place en tant que parents comme représentants de Dieu. Je ne dis pas qu'on est des dieux, mais ils apprendront Dieu, le visage de Dieu, au travers de notre comportement. Dieu est comparé dans la Bible à un père, n'est-ce pas ? Mais le premier image du père qu'ils auront, ça va être qui ? Ça va être vous. Ça va être toi, mon frère. Ça va être moi. Je dois agir en leur faveur comme Dieu voudrait agir en leur faveur. En tant que papa, nous devons considérer nos enfants avec cette mission. J'espère que vous allez comprendre le terme que je vais employer, mais sacré, que Dieu nous donne. Il en est de même pour les mamans, il n'y a pas de problème. Hein. Mais combien d'hommes et de femmes peuvent avoir une mauvaise image du Père Céleste parce que sur cette terre, ils n'ont pas connu l'image du vrai Père. Notre consécration pour les membres de notre famille, à la garde de nos parents, que nous devons honorer. Honorer. Pourtant, c'est bien dans les familles qu'il y a tant le plus de difficultés. Mais c'est pas pour rien que justement il y a ce commandement-là. Comme on l'a vu tout à l'heure dans la notion de l'amour. Dans la notion de l'amour, il y a l'excuse, il y a le pardon, il y a le fait de se supporter, etc. Mais oui, parce que rien ne va de soi. Et Dieu qui sait très bien que c'est de temps en temps dans les foyers que ce sont les relations les plus difficiles à gérer. Il est facile de parler à un inconnu pour lui dire ce qui ne va pas, mais avec nos parents, on fait comment ? Alors, on doit dire, mais il doit y avoir cette attitude, cette mentalité d'honorer. Ne vivons pas sur notre égocentrisme, ne vivons pas sur nos regards, ne vivons pas sur notre manière de penser, ne vivons pas en créant de la distance. Mais devenons le prochain. Qui est le prochain de celui qui souffre ? Qui est le prochain de celui qui est dans les souffrances ? Qui est le prochain ? Ça doit être moi. C'est moi qui dois devenir aimable. C'est moi qui dois devenir patient. C'est moi qui dois être à l'écoute. C'est moi. Et nous devons avoir ce rôle dans nos foyers. De regarder ceux qui nous entourent comme Dieu les considère. Alors en conclusion, je ne ferai que redire ces deux dernières phrases. La consécration, c'est considérer les gens comme Dieu lui-même les considère, c'est-à-dire comme très précieux. Comme très précieux. Le jour où nous arriverons à regarder chaque individu comme étant la personne la plus aimée de Dieu, alors on va se comporter autrement. C'est obligé. Parce que bien souvent, nous regardons les autres avec notre regard à nous, avec nos pensées à nous, avec notre évaluation à nous, avec ce qu'on a vécu ou pas vécu avec la personne. Seigneur, apprends-moi à voir les gens comme toi tu les vois. Et agir en faveur des autres, c'est servir Dieu, car c'est agir comme Jésus aurait agi. Jésus a multiplié les pains pour ceux qui avaient faim. Jésus a consolé les veuves en redonnant la vie. Jésus a guéri les malades en les touchant, en leur imposant les mains, en étant dans leur présence. Jésus avait ses paroles pour relever ceux qui étaient tombés à terre. Nous sommes placés dans ce monde. Premièrement dans notre famille. Deuxièmement dans notre église. Troisièmement dans ce monde. Afin que nous puissions être des consacrés. Non pas du ciboulot, mais des consacrés de cœur. Amen.